Eh bien, nous avons le temps maintenant pour prendre des questions. Peut-être souhaitez-vous réagir, Tariq ou Florian, Vincent, sur les propos des uns et d'autres, ou alors si vous voulez directement des souhaits d'échange.
J'avais une question à Tariq.
Oui.
Merci beaucoup de tout ce que vous avez dit. J'ai trouvé ça très éclairant. Je voulais simplement vous poser la question. J'ai compris que dans les pratiques sociales, vous aviez un interlocuteur qui était un cercle de savants qui avait un accès privilégié au texte. Et donc je me demandais, dans la régulation des pratiques sociales, dans une perspective religieuse musulmane, le rôle d'une société civile. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une conscience d'une société civile qui sont les agents de mutation des pratiques sociales. Et comment, si on a un islam qui se réfère à une société de savants ou d'experts, on peut entendre
ce besoin. Je comprends le. Alors, effectivement, il y a une notion très importante, d'ailleurs coranique, de société civile qui ordonne le bien et qui est une espèce de conseil les uns vis-à-vis des autres. Et d'ailleurs, ce qu'on a reproché à certains peuples dans le Coran, c'est de se laisser aller sans se donner bonne conscience entre nous, sans être une aide ou un accompagnement les uns envers les autres dans le bien et la piété. Et donc, c'est cette notion de société civile, elle est toujours présente, elle gardera cette année. Mais est-ce que la société civile toute seule est capable d'organiser, de gouverner, de remettre de l'ordre là où il y a du trouble, d'arrêter une hémorragie possible parce qu'il y a une certaine secte qui instrumentalise la religion pour des fins terrestres? La réponse est non. On l'a vu à travers l'histoire du monde musulman et à travers l'histoire du monde tout simplement, que malheureusement, une certaine minorité peut aussi utiliser son pouvoir charismatique, le besoin ou la soif d'une certaine population à une religiosité ou à une spiritualité pour ses propres fins. D'où cette notion de ulama, qui a été remplacée finalement par ce qu'on appelle les comités d'experts, qui peuvent travailler sur les questions de la bioéthique. On en a aujourd'hui, moi personnellement je fais partie d'un comité, ce qu'on appelle Mujammaat. Ces comités ont abrogé la notion du savant qui fait la fatwa seul. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à partir du XXe siècle, on a aujourd'hui un certain nombre de questions qui sont tellement complexes que le jurisconsulte seul, qui a évidemment toutes les connaissances théologiques possibles et imaginables, ne peut pas les aborder, ne peut pas les comprendre déjà, les appréhender. Et donc il faut, autour de ce jurisconsulte, le médecin, l'éthicien, le chimiste, voilà, un certain nombre de disciplines pour pouvoir déjà comprendre cette question. Si on parle par exemple de la procréation médicalement assisté, si on parle du don d'organes, en cas de vie, en cas de mort, etc. Tout cela, moi seul, je ne peux pas statuer. Il me faut aussi, je me rappelle, dans un ordre des médecins, on nous a invités, ici à Paris, dans cet ordre des médecins, nous, les théologiens, on avait besoin d'un éclairage sur ce qu'on appelle, la mort, la mort clinique. Est-ce que c'est une mort au point de vue de la législation religieuse ou est-ce que ce n'est pas une mort? Autrement dit, est-ce qu'on veut prélever l'organe vital ou pas? Il faut agir très vite parce que tant que il y a quelques secondes. Il y a quelques secondes pour profiter de cet organe. Voilà, donc c'est des questions complexes auxquelles la société civile toute seule, livrée à elle-même, ne peut pas répondre. Il faut ce comité-là, ce qu'on peut appeler aussi le comité des sages. Il faut une certaine sagesse qui concilie texte et contexte, sagesse. En parlant de la famille, par exemple, vous avez parlé de liberté. Tous les trois, on a parlé de liberté. On a parlé de bonheur. Si la famille aujourd'hui, si on pousse la notion de liberté à l'extrême, eh bien, les statistiques donnent des taux de suicide importants. cause des relations hommes-femmes qui ne sont plus les mêmes qu'avant, parce qu'on a désacralisé la famille, parce que la famille ne vaut rien, parce qu'on est dans une société de consommation, d'instantané, au point que il n'y a plus de relation durable, il n'y a plus de notion d'éthique ou de morale. Dans une relation entre deux, il faut un intérêt sexuel, matériel, etc. Donc on n'est plus dans une relation désintéressée, spirituelle, qui est en toute évidence pas suffisante. La religion musulmane ne condamne pas le sexe tant qu'il est dans cette limite du mariage. Au contraire, c'est une source d'épanouissement. Donc il faut trouver ce juste milieu entre liberté excessive et, on va dire, blocage dans des schémas d'une tradition figé qui refuse justement de prendre en compte la réalité. Et donc c'est tout le travail des jurisconsultes, avec l'éclairage à la fois du texte et de la réalité, sans que cette réalité ne soit loi. Et ça aussi, la grande difficulté aujourd'hui, et je pense à Vatican II par exemple, on nous a demandé de faire Vatican II, nous, ici en France. Moi, ma réponse était très simple. Que la réforme de l'islam ou Vatican II de l'islam a déjà été faite depuis des siècles. Parce que, c'est ce que je vous disais là, l'immuable chez nous, il est très minoritaire. Il est très minoritaire. Les textes immuables sont très minoritaires pour laisser justement ce libre choix à la société d'évoluer dans le bon sens avec ce qu'on appelle la fitra, c'est-à-dire la nature primordiale, dans le respect de cette nature humaine primordiale, cette logique saine, sans que cette logique saine soit pollué par des effets de mode. L'exemple très simple, aujourd'hui, quel est le vêtement conforme à la pudeur? Est-ce qu'il y a un vêtement qui est meilleur qu'un autre? C'est une question éthique. Posée autrement, est-ce que mon vêtement est meilleur, enfin le costard-cravate, est-ce que c'est un vêtement religieux? La tunique, est-ce que c'est un vêtement religieux? Des fois, je m'habille en tunique pour mon prêche du vendredi, par exemple. Est-ce que c'est cela qui fait de moi l'imam? Voilà. Et cette question, entre guillemets, à la fois de l'évolution de la société et donc du vêtement, pose la question inverse du monde de la consommation. C'est aujourd'hui, le vêtement qui est, entre guillemets, fait loi, c'est le vêtement de la majorité. C'est le vêtement qui est, entre guillemets, poussé par les effets de mode qui peuvent changer d'une décennie à l'autre, voire même avant, enfin, d'une année à une autre, voire même d'un mois à un autre, voire même en fonction des acteurs ou des actrices ou des vedettes qui vont s'habiller qui vont s'accoutrer de cette façon. Et donc on n'est pas, on va dire, le religieux est parfois biaisé. C'est ce que je veux dire ici, c'est que le religieux, le prêtre, l'imam, l'évêque, le rabbin, etc., sont parfois esclaves des effets de mode d'un réalisme poussé à l'extrême ou d'une liberté qui se veut dominatrice. Et donc on perd le guidant. Enfin, on n'est plus dans un mode immuable, variable, avec une révélation, avec une espèce de relation avec le transcendant, etc. On est en train de courir pour chercher qui va s'adapter le mieux, qui va être le plus laxiste possible. Et dans cette course effrénée, on est souvent confronté à un autre extrémisme, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de l'extrémisme littéraliste, on est confronté à un autre extrémisme qui est l'extrémisme réformiste. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si. Ou si
oui,
j'ai encore.
Oui.
Hein.
Chers amis, il y a des questions, vous voulez demander des choses, on échange autour du verre au fond de la salle pour conclure agréablement de ça.
On attend avec impatience leurs questions, oui, puisqu'on a parlé depuis tout à l'heure.
Oui.
On aimerait savoir le feedback, parce que...
C'est possible aussi que chacun pose ses questions sans qu'on y réponde, mais comme ça tout le monde les aura toutes entendues, après on peut répondre autour d'un verre, mais c'est vrai que moi ça m'intéresserait de... Ça m'intéresserait d'entendre...
Ouais, c'est important.
Bon, alors je vais vous poser une question. À tous les trois. Je vais te dire.
Finalement, non, pardon.
Allez-y, monsieur.
je suis catholique, je vais à messe un peu plus souvent qu'une fois par mois, mais ça c'est sans rapport. Je connais bien Delphine Orvilleur, et qui est numéro combien comme femme rabbin, alors si vous êtes la troisième.
C'est un peu compliqué de compter, parce que je pense qu'il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, les femmes rabbins en France sont Pauline Bebb, Delphine Orvilleur et moi. Et
voilà. Parce qu'on citait aussi sur le papier quand même Pauline Bell. Mais oui, non, c'est Séverine Sokol.
Oui, elle a été un certain temps ici, mais... et puis bon, il y en a d'autres.
Alors c'est pas autre chose. Ouais. Et enfin, j'avais aussi des amis musulmans. Hein. Alors, imaginez que vos trois religions, au lieu d'être nées quelques siècles, de nombreux siècles éventuellement avant l'ère actuelle, que ces trois religions émergent de la conscience collective maintenant dans le monde que nous vivons. Peut-on penser que chacune, avec sa propre vision des choses, serait aussi intrusive dans la vie personnelle des individus, intrusive dans un champ de réflexion et de comportement autre que celui de la relation entre l'homme, et quand je dis l'homme, j'embrasse aussi la femme, avec le divin. Autrement dit, sur les questions des relations sexuelles, des interdits alimentaires, de la manière de s'habiller. Est-ce que toutes ces choses-là ne sont pas, au XXIe siècle, qui commence si mal de toute façon, toutes ces choses-là, un reste d'un passé?
Posez votre question, monsieur.
Qui ne concerne pas vraiment la religion. Est-ce que Dieu, s'il existe, se préoccupe vraiment de savoir actuellement ce qu'on mange, comment on s'habille et comment on fait l'amour?
Très bonne question.
Voilà ma question.
Très bonne question.
C'est un peu compliqué, mais je la simplifie.
Non, elle est très bonne. Légitime, bonne et intéressante. On se l'est posé au moins une fois chaque. Personnellement, je m'étais déjà posé cette question. À un moment de ma vie, en tout cas.
Ouais. C'est assez.
Ok. Je suis volontaire.
Bon, en même temps, dans ce qu'on nous a, enfin, juste dans ce qu'on nous a présenté, enfin, moi j'ai le sentiment par rapport à la question que tu viens de poser, c'est un peu différent quand même sur la présentation de la religion juive. Contrairement à l'islam et au catholicisme, ce que vous avez déposé, justement sur le sentiment d'intrusivité. Alors après, c'est peut-être différent.
Après, le judaïsme rentre quand même très.
Sur le judaïsme réformiste, peut-être est moins interventionniste que le judaïsme orthodoxe, mais en tout cas, c'est pas le sentiment. Quand je reçois vos trois interventions, l'interventionniste, je le sens moins présent dans le judaïsme réformiste, par exemple. Ah, peut-être c'est différent.
Je pense surtout par rapport à cette question, la chose peut-être la plus compliquée d'un point de vue juif, c'est que à partir du moment où on dit est-ce que ça intéresse Dieu, alors moi j'aurais besoin qu'on me définisse ce que c'est Dieu, et là j'aurais une difficulté parce que le nom de Dieu dans le judaïsme est, on le prononce pas, donc on est censé se taire.
Dieu, donc, c'est la recherche de Dieu qui compte.
Donc voilà. Par contre, pour répondre à la deuxième partie, est-ce que c'est important? Donc, c'est effectivement. Peut-être qu'aujourd'hui, le judaïsme ne naîtrait pas. Mais il n'y a pas de judaïsme sans une préoccupation très pointue de qu'est-ce que je fais? Comment je me réveille le matin? Quelle est ma façon d'agir? Après, il n'y a pas une seule réponse. Et ça ne veut pas dire que ça change la vie de Dieu. D'accord, parce que ça veut rien dire même la vie de Dieu. Donc il n'y a pas qu'une seule réponse, mais par contre, le fait de se poser la question qu'est-ce que c'est vivre, et donc vivre, c'est manger, dormir, aimer. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est manger, Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange pas, comment je le mange, je le mange assis, je le mange debout, je dis quelque chose avant, je le dis pas. Enfin, et de rentrer dans ces détails-là. C'est vraiment ce qu'est le judaïsme. Peut-être que le judaïsme naîtrait pas aujourd'hui, mais en même temps, moi, quand je regarde, par exemple, les rites de deuil dans la tradition juive, on est censé pas avoir le droit de sortir de chez soi pendant 7 jours. Ça peut sembler hyper archaïque, mais j'ai des amis non-juifs qui me disent que c'est ce qu'ils font naturellement, et ils se déculpabilisent de le faire, parce qu'ils disent, moi, mon ami rabbin, je l'ai appelé, et elle m'a dit que bah, c'était normal de pas vouloir sortir de chez soi, de pas avoir envie de se faire à manger, de pas vouloir s'asseoir dans des sièges confortables, de pas avoir envie de changer de vêtements, etc. Et ça rejoint ce qu'on peut dire, ce qu'on dit dans un domaine qui est complètement différent, mais qui est très actuel, qui est par exemple les thérapies systémiques ou les thérapies brèves. On dit, il y a une procédure qui est, quand tu es déprimé, on t'interdit de sortir de ton lit. En fait, quelqu'un qui est dépressif, il veut pas sortir de son lit, mais il culpabilise. Mais il culpabilise de pas être capable de sortir de son lit. Donc ça s'appelle, je ne vais pas retrouver maintenant parce que je suis vraiment dans un autre truc, c'est, je retrouverai ça après, mais donc le fait de prescrire le symptôme, c'est une façon de se libérer de la culpabilité, de pouvoir vraiment vivre autre chose. Donc l'idée de base du judaïsme, et alors de ce point de vue-là, c'est assez intéressant, parce que si tu regardes dans les interventions en termes de comment changer nos vies, il y a les émotions, il y a les actes et il y a la pensée. Et donc le judaïsme s'intéresse beaucoup à comment les actes modifient nos émotions et notre pensée. Le judaïsme ne va pas parler beaucoup des émotions, il ne va pas dire tu dois aimer Dieu, par exemple. Enfin, si on le dit quand même dans la Torah, etc. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on insiste. Mais disons qu'il y a 3 portes d'entrée et elles sont complémentaires en fait, et judaïsme c'est du côté de l'action. Donc ce serait peut-être autrement, mais ce serait pas le judaïsme. Est-ce que c'est démodé par certains aspects? Oui, si on considère que c'est une loi externe qui nous est imposée de façon contraignante, mais si c'est la possibilité de vivre les choses autrement ou de se déculpabiliser de ce qu'on est, de toute façon, comme pour l'exemple des règles de deuil poussées à faire par la nature, alors non, dans ce cas ça reste actuel.
Les compléter ou
François, j'ai une question à poser à monsieur Abdoul. Vous avez fait de manière très intéressante d'ailleurs une présentation historique de ces notions de morale familiale. Vous avez laissé entendre que fut un temps la morale familiale était beaucoup moins littéraliste qu'elle n'a été par la suite. Mm-hmm. Si j'ai bien compris, pour sans doute résumer l'excès, c'est le passage empire ottoman, etc., qui a rigidifié un certain nombre de choses. Et vous avez parlé à un moment de quelque chose que je ne connaissais pas, qui était le pacte de neige. C'est quoi?
Pacte de neige. Neige, c'est le plateau de Riyad actuel. Ce pacte de neige, il est à la fois politico-religieux, parce qu'il scelle la relation entre les... ceux qui ont construit aujourd'hui ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite et l'Empire britannique, qui justement, à travers ce pacte de neige qui a été déclassifié, qui était secret défense avant, qui est déclassifié il y a une dizaine d'années, très exactement, les textes sont sortis au grand jour, vous pouvez les relire en anglais, il y a aussi une traduction française, où effectivement les généraux britanniques se sont alliés avec ce Mohammed ibn Abdul Wahhab, 1750. Comme en 1750, pour affaiblir l'homme malade de l'Europe et commencer ce qu'on va appeler le colonialisme qu'on a connu jusqu'au XXe siècle, mais aussi une espèce d'alliance qui a été scellée par la suite avec les Américains, pétrole contre défense.
Ah oui.
Voilà. C'est le pacte de Najd. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, c'est. Les deux pays qui sont aujourd'hui, entre guillemets, les protégés des États-Unis, héritiers fidèles de la Grande-Bretagne, ce sont le Qatar et l'Arabie Saoudite. Voilà. Et ce sont ces deux pays-là qui aujourd'hui ont fait... Enfin, c'est de cette matrice-là qu'est né ce qu'on appelle le salafisme wahhabite. J'aimerais juste revenir à la question de monsieur, parce qu'elle est très intéressante et je me la suis posée dans ma quête spirituelle, dans mes questions existentielles. que j'ai eu aussi des... j'ose pas dire que je suis pas né musulman, mais c'est presque ça. Parce que j'ai un petit peu essayé de chercher dans toutes les religions ce qui me rendait libre. Parce que je cherchais la liberté, en fait. Pour moi, la religion, c'est la liberté. Qu'est-ce qui nous rend libre? À cette question, donc, quand on va très très loin dans la matérialité, quand on obéit à notre nature argileuse, parce qu'on a une dualité, hein, on est déchiré entre notre nature argileuse et notre esprit, notre nature lumineuse, quand on va céder, quand on va aller loin dans cette nature argileuse, quand on va obéir à tous nos désirs, à toutes nos passions, faire vraiment ce qu'on veut, vraiment, nos limites, comme on dit. On comprend pourquoi il y a une religion. Je ne suis pas en train de vous inciter à faire ce que vous voulez, hein, ce n'est pas ça. Mais je vous raconte vraiment quelque chose de vrai. Quand on va très très loin dans cette bestialité, on comprend tout l'intérêt de ces garde-fous qui sont là pour nous protéger. Et c'est résumé dans un verset coranique. Dieu veut vous faciliter, vous alléger le fardeau, et l'être humain a été créé faible. Et donc, le but d'une religion, c'est de vous relier avec le transcendant. Donc, cette partie lumineuse qui est en vous, cet esprit de Dieu, dont vous êtes né, créé, qui est l'argile, l'insufflation de l'esprit de Dieu dans l'argile, c'est ça la genèse de l'homme. Vous avez une espèce de nostalgie. Et c'est de cette nostalgie que naît la quête de sens. Et c'est le bien fondé de la spiritualité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on va vers une religion ou une autre. Parce qu'on a une soif spirituelle, parce qu'on a un cœur. Et les besoins de ce cœur, les besoins de cet esprit, on ne peut pas les ignorer. On ne peut pas les ignorer. Et j'en suis le témoin vivant de cette soif spirituelle qui, à un moment ou à un autre, va avoir cet éveil spirituel. Et à un moment ou à un autre, on va vouloir aller au-delà de notre enveloppe charnelle pour découvrir qu'est-ce qu'il y a après. Après avoir assouvi, entre guillemets, tous nos désirs possibles et imaginables, on comprend que ce n'est pas ça. Qu'il y a autre chose, qu'il y a plus beau, qu'il y a plus savoureux. Ce que les gnostiques appellent le paradis de la gnose. Je ne l'ai jamais rêvé. Eh oui. C'est-à-dire, on essaie de faire revivre le paradis ici sur Terre en faisant vraiment tout ce qu'on veut, mais après, on est malheureux. On n'a pas atteint le bonheur sans faille qu'on cherchait. Et donc, on fait un revirement vers la spiritualité. Et là, on comprend qu'il y a mieux que le désir bestial, qu'il y a mieux que le fait d'assouvir tel ou tel désir, que finalement cette intrusion, qu'on peut appeler intrusion, n'est pas une intrusion, c'est juste une retrouvaille. C'est juste une autre relation avec Dieu qui nous permet d'assouvir cette partie en nous qu'on a du mal à reconnaître parfois, alors qu'elle existe. On ne la voit pas, elle existe, cette partie spirituelle, ce cœur. Et effectivement, on reconnaît comme vous deux le retour du Messie. Et ce retour du Messie, de Jésus justement, il a une caractéristique principale, c'est qu'il nous fait revivre la feta, la nature primordiale. C'est-à-dire, son rôle n'est pas de venir avec une nouvelle législation. C'est ça ce que dit le Coran. Que le Messie, quand il va revenir, il ne va pas revenir avec une nouvelle législation. Il va juste essayer de rappeler, c'est un rappel, d'éveiller la conscience humaine qui était enfouie et esclave des joues, de la matérialité, des désirs, du pouvoir, de l'orgueil, de l'ego, etc. Quand ces idoles vont être cassées de ce cœur, là, hop, on dévoile la nature humaine réelle et on dévoile justement ce besoin inné, cette soif qu'on a en nous, qu'on n'arrive pas malheureusement, qu'on voile, parce qu'il y a, enfin dans la spiritualité musulmane, on dénombre plus de 70 000 voiles lumineux. Je ne vous parle même pas des voiles ténébreux. Et donc ces voiles lumineux, en fait, d'en fait partie l'orgueil, issu de la magnificence, de la toute-puissance divine, on se prend pour un dieu. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sur ça qu'il faut méditer. L'homme moderne, l'homme avec un grand H, l'homme moderne, s'est pris pour un dieu. Il s'est dit, je suis Dieu. Il n'y a plus de Dieu dans la cité, mais je suis Dieu. Et donc, l'homme moderne, je le résume en un mot, il manque d'humilité, tout simplement. Lorsqu'il retrouvera cette humilité, il pourra retrouver ce paradis qu'il a perdu. Voilà. Et il pourra retrouver justement sa fêta innée, cette nature primordiale et ce besoin et raviver la flamme pour pouvoir justement étancher sa soif.
Merci beaucoup, Tariq, pour ce témoignage personnel aussi de ta vie. Moi, je voudrais vous remercier très vivement et très chaleureusement tous les trois pour avoir redonné un éclairage très net sur ce qui fonde les spécificités de vos religions, en particulier la relation aux femmes, ce qu'elle veut dire par rapport à la relation à Dieu, également l'importance de la filiation, et ça permet effectivement de comprendre pourquoi il y a des institutions et des sacrements, le mariage et autres, l'importance que ça a, et effectivement pourquoi ça peut être en tension dans l'époque moderne, avec donc la plasticité que vous avez évoquée, l'interrogation aussi que vous notez, à savoir que on voit que vous êtes issu de tradition où vous laissez interroger par ce qui se passe dans la société, et vous réinterrogez vos textes, vous réinterrogez votre façon de recevoir ce qui se passe. Donc on est dans une matière qui est tellement vivante. Merci à tous les trois de nous en avoir fait part. Et on peut clôturer autour d'un petit peu, offert gentiment par l'Institut Elisabeth.
Merci pour cette occasion de réexplorer tout ça et de voir sous d'autres angles. Merci beaucoup.